Chers amis, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de l'émission Dialogue et Partage, produite par le collectif Dialogue et Partage, à l'animation Sarah Brevard. Et en studio avec nous pour nous entretenir pendant la demi-heure qui vient, Fenn, qui est un musicien, qui chante des choses tout à fait émouvantes et qui incite à réfléchir. On en reparlera tout après. Bonsoir Fenn. Arnaud Zeitmann, qu'on ne présente plus, qui a l'honneur d'être mon fils, et qui est de passage au Congo et que nous avons convié. Qui est de passage à Bruxelles, basé normalement à Kinshasa, et que nous avons convié pour nous donner quelques explications sur l'arrestation récente de Jean-Pierre Bemba.
Journaliste aussi au passage.
Oui, et évidemment, correspondant de la BBC à Kinshasa et de France 24.
Bonsoir.
Oui, c'est pas comme mon fils que j'ai invité, c'est comme journaliste, évidemment. Et aussi Jacques Zeitmann, que j'ai invité à venir nous dire ses impressions à propos du film qui est passé au Festival de Cannes, Vals with Bachir. Alors, bon, ben, le personnage du mois, moi j'ai pensé que Cohn Bendit méritait un hommage spécial. Cohn Bendit, c'est mai 68, et les acquis de mai 68, c'est tout de même un formidable vent de liberté. Je sais que beaucoup d'entre vous contestent les résultats, les retombées de cette période, mais je pense que sans mai 68, on n'aurait pas secoué le cocotier de l'autorité, de l'arbitraire, de l'humiliation qui tenait lieu de pédagogie jusque-là. Et avec comme tout mouvement de réforme, de révolte avec ses excès, je pense que de part et d'autre, on essaiera de les corriger, on essaye encore chaque jour. Et que Cohn Bendit est en tout cas l'incarnation de ce mouvement et de ce formidable bouleversement de valeurs. Jacques Gassman, une réflexion là-dessus?
Moi je veux bien qu'on parle de mai 68 si tu veux, mais c'était pas l'objet de cette discussion, sinon on risque de s'étendre.
Voilà. Alors donc, Jean-Pierre Bemba a été arrêté. Jean-Pierre Bemba, on en a entendu parler récemment lors de la campagne présidentielle qui s'est déroulée au Congo. Arnaud Zeitmann, pardon, est-ce que vous pourriez nous dresser un petit portrait rapide
du
personnage?
Bon, Jean-Pierre Bemba, c'était donc d'abord un enfant du mobutisme, puisque il était en quelque sorte porte-valise de Mobutu à une époque où le président Mobutu était en disgrâce, à Gbadolité, après 1990, lorsqu'un vent de démocratie soufflait sur le Zaïre de l'époque. Bemba est resté très fidèle à sa vie de garçon de course à Mobutu, il a grandi dans son ombre, c'était un modèle pour lui. C'est le fils de Bemba Sao Donna, qui était l'argentier du régime Mobutu, qui a été ministre de l'économie, ministre des finances à plusieurs reprises. Jean-Pierre Bemba est devenu plus tard un homme d'affaires à Kinshasa. Il avait une compagnie aérienne, une compagnie de téléphone portable aussi, des affaires très juteuses au départ, mais il a souvent été accusé d'être un piètre gestionnaire, de pas traiter très bien les gens avec lesquels il travaillait, c'est un garçon qui a grandi aussi dans les faubourgs plutôt luxueux de Bruxelles vers Lannes, et qui conduisait des grosses voitures, qui a étudié cependant à l'IFEC, qui a décroché un diplôme en économie dans cette grande école de commerce ici à Bruxelles. Et puis on en aura entendu parler en politique, puisque il s'est retrouvé comme chef rebelle vers 1998-99, lorsque plusieurs rébellions ont envahi le Congo pour faire partir non plus Mobutu, mais Kabila, l'homme qui avait succédé à Mobutu. Kabila, Laurent Désiré Kabila. Ensuite, donc les Rwandais avaient mis en scène une rébellion qui s'appelle le RCD. L'Ouganda, qui est un peu en concurrence avec le Rwanda pour ne pas être en reste, a mis en scène Jean-Pierre Bemba. Et c'est là que les choses se corsent pour Jean-Pierre Bemba. Très vite, il prend le contrôle de tout le nord de ce gigantesque pays qu'est le Congo. Et il s'installe, il règne pendant à peu près 5 ans. sur cette partie du Congo. Ses affaires sont juteuses. Il y a des mines de diamants, il y a du bois qui est exporté. Il arrive ainsi à régner sur cette région. Il y a une armée, des hommes en armes, disons, qui le soutiennent, mais c'est une armée qui est surtout encadrée par l'Ouganda au départ. Peu à peu, des hommes sont formés au sein de la rébellion de Bemba, et les choses se corsent pour lui, fin 2002, début 2003, parce qu'à ce moment-là, Jean-Pierre Bemba dépend pour toutes ses importations de la République centrafricaine voisine. Mais le régime en Centrafrique est lui-même menacé. Le président Patassé, qui était au pouvoir depuis très longtemps, est menacé par une rébellion qui vient du Nord. Le président Patassé, que j'avais d'ailleurs rencontré à Kinshasa, présentait à l'époque Bemba comme son fils et Kabila Laurent comme son frère. Donc on a un président qui cherche à jouer un rôle, disons, dans la dynamique régionale. Et lorsqu'il est menacé, eh bien son fils, Jean-Pierre Bemba, vient à son secours, envoie des hommes qui traversent le fleuve Ubangui, qui est un affluent du fleuve Congo, et entre dans Ubangui. Pour ces hommes qui sont restés en brousse pendant de longues années, c'est la fête. Ils jettent leur dévolu sur cette capitale relativement riche au standard de la région. Ubangui, c'est le pillage général. Ce sont des viols en masse qui sont commis, des tortures de civils, des arrestations, des exécutions. C'est pour tout cela que la Cour pénale internationale se saisit du dossier après une plainte portée par les autorités centrafricaines qui sont arrivées au pouvoir ensuite. Parce qu'il faut savoir que si Bemba, avec l'aide de Kadhafi d'ailleurs, parce qu'il y a une garde prétorienne libyenne autour de Patassé, du président Patassé, renforcée par les hommes de Jean-Pierre Bemba, tout ce monde se donne à cœur joie dans ces batailles qui durent plusieurs mois, les exactions sont commises, et puis ensuite, eh bien, ils sont mis en déroute finalement, ils rentrent au Congo, mais quelques mois plus tard, le régime finit par tomber, ils parviennent à repousser la rébellion qui venait du Nord cette fois-là, mais quelques mois plus tard, rien n'y fit, le régime tombe. Le régime tombe et donc Bemba perd en fait son appui de la Centrafrique. Et c'est pour tout cela qu'aujourd'hui, la Cour pénale internationale a constitué un dossier avec plusieurs chefs d'accusation contre le MLC, le mouvement de Jean-Pierre Bemba, les chefs d'accusation crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et c'est de cela que Bemba doit répondre aujourd'hui.
Quelle différence entre le CPI et le TPI ? Le tribunal pénal et la Cour internationale.
Alors, il y a le tribunal pénal international, ce sont des tribunaux qui ont été mis en place, constitués pour des raisons précises, qui ont une durée dans le temps face à des conflits précis. Il y a eu le TPI pour la Yougoslavie et il y a eu le TPI pour le Rwanda. Maintenant, en 2002, il y a la Cour pénale internationale qui a été constituée. Les États signataires, les grandes démocraties dans l'ensemble, ont signé les statuts de la Cour, à l'exception d'ailleurs de certains pays, comme les États-Unis. Mais les pays qui sont signataires ont donc obligation livrer les gens qui sont poursuivis par cette Cour pénale internationale lorsqu'un mandat est émis par la CPI. C'est donc une Cour qui est permanente, qui existe depuis 2002, et qui s'est saisie du dossier congolais comme le premier dossier dont elle va s'occuper. Oui. Et puis ensuite, maintenant, avec la RFA, donc il y a eu trois ou quatre, me semble-t-il, miliciens congolais qui ont été actifs dans l'Ituri, qui est dans le nord-est du pays, qui ont été arrêtés, mais qui ne sont pas des gens de haut rang. Jean-Pierre Bemba, c'est une personnalité de poids. Il a aussi une trajectoire politique après son aventure rebelle, puisque à la faveur de l'accord de paix, il est rentré à Kinshasa. Son mouvement est devenu un parti politique, le MLC, qui est la principale plateforme d'opposition, le principal parti d'opposition au Congo aujourd'hui. Et Bemba a ensuite participé à la campagne électorale contre le président Kabila, qu'il a perdu avec quand même 42% des voix. C'est donc une figure politique majeure au Congo, mais la CPI a décidé de passer outre. Il faut savoir que même s'il a perdu l'élection présidentielle, il a tout de même été élu comme sénateur. À ce titre, il jouit donc en principe d'une immunité dans le cadre d'une constitution qui a été passée aux urnes, par référendum en RDC, au Congo. Donc il y a une constitution qui, disons sur les textes, répond à la constitution, aux standards d'un État démocratique. La CPI a décidé de passer outre et de l'arrêter malgré l'immunité dont il jouissait en tant que sénateur. Ça, c'est quand même un signal très très fort de la part de la CPI.
Est-ce que c'est un risque pour d'autres hommes politiques dont l'immunité ne serait plus respectée non plus alors ?
Mais on peut le supposer, on peut le supposer. En tout cas, le procureur Ocampo s'arroge cette prévalence ou ce droit de dire voilà, il y a des crimes qui sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et contre lesquels qui ne peuvent être protégés par aucune immunité. À qui je pense je pense que ceux qui sont visés peuvent se reconnaître. Si on prend pour l'instant la CPI a agi en Afrique. Sur d'autres.
Au Congo, il y a d'autres hommes politiques qui peuvent être visés, par exemple le président.
Écoutez, c'est pas à moi de dire si l'un ou l'autre peut être visé. Je pense que c'est quand même un terrain assez glissant. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a eu des crimes, il y a eu des abus commis au Congo, commis, semble-t-il, même selon des rapports des Nations Unies, par la garde, par la garde présidentielle, par exemple, en mars de l'année dernière, lors des affrontements entre Bemba et Kabila, il y a des crimes et des abus commis des deux côtés. Il y a également dans le Bas-Congo en janvier de cette année, et en janvier de l'année dernière aussi, il y a eu des très graves abus commis. On a retrouvé des charniers, donc il y a des forces, disons, obscures ou peut-être liées au régime qui ont pu cette année à genre de pratique. Et maintenant, il y a peut-être la politique qui joue aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, Bemba, ce n'est plus quelqu'un qui pesait dans le paysage politique congolais. Depuis, il était en exil depuis le mois d'avril de l'année dernière, et la vie politique continuait sans lui au Congo, même si, disons, c'est quelqu'un qui compte dans le cœur d'une partie des Congolais.
Et notamment des Congolais qui sont en diaspora.
Notamment des Congolais qui sont en diaspora. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs manifestations à Londres, à Bruxelles, favorables à Jean-Pierre Bemba par le passé. Maintenant, c'est un enjeu, je crois que pour l'avenir, c'est un enjeu de poids pour la démocratie congolaise.
Voilà, c'est tout de même un progrès aussi politique, démocratique, que les dictateurs ne resteront pas impunis.
J'imagine que oui, c'est en ce qui est le but recherché par la Cour pénale internationale, effectivement.
Alors, pour terminer, juste encore une petite question. Les rapports entre la Belgique et le Congo, là, les derniers remous suite aux propos un peu pas très diplomatiques de notre ministre des Affaires étrangères, vous pensez que ça pourrait avoir à terme, de véritables effets négatifs ?
Écoute, les remous entre la Belgique et le Congo, c'est pas une affaire nouvelle. Il y a toujours été du temps de Mobutu. Il y a toujours eu un genre de je t'aime moi non plus, de va-et-vient, qui alimentait la chronique régulièrement, plus en Belgique qu'au Congo, d'ailleurs, à mon avis. On disait autrefois, certains hommes politiques disaient, il y a qu'au Congo qu'on croit que la Belgique est une grande puissance. Je pense que les choses sont en train de changer. Je pense que
même au Congo, il ne croira plus.
Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a qu'en Belgique qu'on croit que la Belgique conque le Congo, disons. Au Congo, aujourd'hui, le Congo multiplie des partenariats, notamment avec la Chine. Il y a l'Inde qui est intéressée. Il y a un sommet Afrique-Japon qui est prévu bientôt. C'est vrai que la Belgique a joué un rôle important. Et récemment, il y a eu quand même. Pendant la guerre, à la faveur de l'accord de paix, il y a eu quand même la Belgique a essayé d'attirer l'attention d'ensemble de la communauté internationale sur le dossier congolais, mais aujourd'hui le Congo s'est quand même tourné en tant qu'État souverain, indépendant, s'est tourné vers plusieurs partenaires pour essayer de se développer. On attend encore évidemment que les fruits de ce développement hypothétique soient partagés et que les 50 à 60 millions de Congolais en profitent, ce qui n'est évidemment pas le cas jusqu'à présent.
Mmh. En tout cas, merci pour ces éclaircissements. Arnaud, alors juste avant d'interviewer notre musicien, je voulais juste une petite question à propos du film que nous avons tous vu à Cannes et à propos duquel Nicolas Cruz écrivait dans le Soir qu'il regrettait et qu'il était extrêmement, énormément déçu que ce film n'ait eu aucun prix, aucune mention. Et on l'attendait d'ailleurs très fort et ça bruissait d'ailleurs dans le festival que Valse pour Witz-Bashir, le film de Harry Folman, un film d'animation, aurait un prix. Alors bon, le film en fait concerne les massacres de Sabra et Shatila. Je ne vais pas rentrer là dans tout le détail du film, mais disons que un des protagonistes de cet événement, qui est un soldat israélien et qui a eu une espèce de trou noir dans la mémoire sur l'action qu'il avait menée à l'époque, se rappelle dans ce film et revoit tous ses copains qui étaient avec lui pendant cet épisode peu glorieux de l'histoire d'Israël. Et donc, à ce moment-là, le film d'Harry Folman a tout de même le mérite de préciser, et j'espère que ce sera retenu, que bien entendu, ce ne sont pas les Israéliens qui ont organisé ni participé au massacre lui-même. Ils ont néanmoins permis que ce massacre ait lieu et ils ont évidemment une responsabilité, sinon une culpabilité. Alors, qu'est-ce que vous a inspiré ce film?
Si on parle de justice, d'abord, la responsabilité, ils n'ont pas permis qu'il ait lieu, mais enfin, le film quand même établit que les phalangistes chrétiens qui ont commis le massacre avaient des uniformes de l'armée israélienne. On ne sait pas comment ils les ont obtenus, que les militaires israéliens tiraient des fusées éclairantes de nuit qui ont permis aux massacreurs d'accomplir leur sale besogne. Il y a quand même, ils posent bien la question de la responsabilité. On parlait tout d'ailleurs de la Cour pénale internationale. C'est clair que la Cour pénale internationale est pas rétroactive, donc elle a été créée en juillet 2002. Si ce massacre avait eu lieu après juillet 2012, on peut supposer que les responsables, et je crois que c'est Ariel Sharon qui était ministre de la Défense à l'époque, seraient poursuivis.
D'abord Obeka, qui était quand même le chef des phalangistes chrétiens, qui a, lui, été évidemment aux premières loges pour commettre ce massacre.
Bien sûr.
Jacques Reichmann.
Moi, ce film m'avait aussi terriblement impressionné. Déjà par sa facture, parce que c'est tout à fait incroyable de parvenir à faire passer une histoire aussi forte, aussi présente et aussi actuelle à travers un film d'animation d'abord.
C'est donc documentaire d'animation.
C'est pas seulement documentaire, il y a une grosse partie qui est documentaire puisque les interviews sont réelles, les personnes qui parlent ce sont des personnes réelles, on voit leur visage. Qui est leur vrai visage, il est redessiné. Ils sont redessinés, mais c'est leur image réelle, je dirais.
Non, c'est leur voix qui sont réelles.
Non, mais les images correspondent à la réalité des personnages. Oui. J'ai vu des photos des interviewés et c'est exactement les mêmes.
Bon,
terminer juste deux mots. Disons que je trouvais remarquable que ce soit un Israélien lui-même qui décide de faire un film qui est pas glorieux, comme tu dis, vis-à-vis de l'histoire de cette guerre, et en particulier des Israéliens. Mais bon, si tout pays qui a commis des exactions savait balayer devant sa porte, comme les Israéliens savent le faire, comme certains Israéliens savent le faire, ça serait quand même pas mal.
Bien, en tout cas, si vous voulez lire une critique que j'ai écrite à propos de ce film, auquel je décerne d'ailleurs le prix de l'autocritique s'il avait existé à Cannes, vous pouvez vous rendre sur le site de notre collectif dialogue-partage.org. Alors, Fenn, vous avez révélé des dons précoces pour la musique et à 8 ans, vous avez choisi votre voix, on peut dire. C'est tout de même une chance de trouver sa passion de sitôt. Hein. Il y en a qui mettent toute une vie.
Ah ouais, ça m'est tombé dessus. J'ai rien demandé à personne. Voilà.
Non, mais vous l'avez entendu.
Là, c'est tout à fait.
Et en fait, est-ce que c'est grâce à un environnement familial attentionné ou bien une bonne fée, genre l'instituteur de Camus qui...
je crois plutôt à la bonne fée, parce que même si mes parents... n'étaient pas musiciens, ne le sont toujours pas d'ailleurs, mais ils ont quelque part stimulé ça parce que ils n'étaient pas obligés de m'acheter mon petit piano d'enfant qui a fait que ça j'ai un peu progressé à ce niveau-là et de fil en aiguille, voilà. Donc c'est vrai que c'était pas un milieu propice, mais voilà, donc c'était plus fort que moi.
C'est d'autant plus méritoire, évidemment. Et vous êtes un musicien assez complet, hein, parce que vous avez joué du piano, de la guitare, vous avez été formé au chant aussi.
Oui, tout à fait.
Et c'est au Francofolie de Spa en 1999 que votre carrière est lancée.
Voilà. Donc,
vous formez un groupe à ce moment-là.
Oui, tout à fait.
Arias.
Oui. Ouais, avec des musiciens. Donc un auteur-compositeur n'est rien sans musicien. Ça, même si je le suis moi-même, je ne peux pas jouer à la batterie en même temps que de la basse. Donc j'ai eu la chance de tomber sur des musiciens extraordinaires qui m'ont suivi. Et voilà, donc... Et plus tard, bon, j'ai voulu me lancer en solo.
Mais vous jouez seul, là, maintenant.
Toujours, avec les mêmes musiciens. Mais
vous avez amené votre guitare, là, vous allez nous jouer quelque
chose. Si vous voulez, mais je la prends toujours partout, moi, ma guitare.
Vous avez une chanson magnifique, hein, qui s'appelle
Merci.
Pardonner.
Mais justement, pour peut-être enchaîner ou rebondir sur ça.
Sur tout ce qu'on vient de dire.
Sur tout ce qu'on vient de dire. Déjà, je suis en admiration par mon ami, ici à droite.
Arnaud Zeitmann.
Voilà, reporter. Bon, déjà, parce que j'ai toujours été passionné. Par tout ce qui est géopolitique et aussi le fait que tout ce que j'ai entendu là, on parle de pardonner, mais des fois c'est difficile de pardonner quand on entend tout ça.
Il faut qu'il y ait de la justice pour qu'il y ait du pardon. Hein.
Tout à fait. Mais des fois, tout commence par le pardon avant d'aller vers la justice. Des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire le pas en disant... On va définitivement pardonner, puis on va passer par la voie, on va dire, plus traditionnelle, plus humaine, plus sociétale, qui force les gens à passer par un tribunal pour quelquefois...
Il y a la vérité, ouais. Il y a la vérité, souvent au Rwanda, par exemple, il y a tout le système des gachacha, donc les auteurs du génocide, ils se sont... des tribunaux populaires où ceux qui reconnaissaient les crimes qu'ils avaient commis étaient sortis de prison et donc pouvaient, la société leur pardonnait en leur rendant leur liberté, même si la cohabitation est très très difficile ensuite. Mais c'est vrai qu'enfin, tu parles de pardon.
Mais oui, c'est ça. Et puis ce morceau, justement, je l'ai écrit il y a quelques temps. Et j'ai pensé à pas mal de situations au niveau de la planète, et notamment le problème, bon, comme on est sur Radio Judaïka, voilà. Donc, le pardon doit venir de plusieurs pôles pour qu'à un certain moment, ça se focalise sur justement une plus grande stabilité. On pourrait en parler des heures de ce problème-là, parce que ça fait maintenant 60 ans, on le sait, que ça dure, mais pour vraiment résumer, c'est vrai que ce morceau m'est venu vraiment tout particulièrement.
En pensant à ce conflit
Pas seulement à ce conflit, mais particulièrement, tout à fait. Donc, ce conflit qui tient à cœur beaucoup de monde sur cette terre, même si ce n'est qu'une petite parcelle de terre, finalement, sur la terre, mais ça a énormément d'influence sur toute la géopolitique mondiale. Et je crois qu'il va falloir vraiment faire un effort... de toutes parts pour essayer de
quel genre d'effort
je ne suis pas décideur, imaginez. Je ne suis pas pris.
Qu'est-ce que vous imaginez de la part des uns et des autres, par exemple?
Moi je crois que ça a l'air utopiste de ce que je vais dire là, mais un pardon ou ne fût-ce qu'une entente passe par le dialogue, passe par une table ronde comme on est aujourd'hui. Donc quand on ne parle pas, il n'y a rien qui se passe.
Oui, enfin, moi, c'est bien aussi que le Hamas ne veut pas reconnaître Israël.
Oui, je sais, mais ça c'est tous des paramètres qui sont très complexes et qui, à mon avis, ça doit changer.
Ultra, et puis il y a des ultras de l'autre côté aussi qui veulent pas reconnaître autre chose que leur approche biblique.
Le rêve des ultras, d'une certaine façon, il est cassé. Avec l'évacuation de Gaza, on sait bien que c'est fini, c'est irréversible. Bon, la Cisjordanie va suivre. Bon, enfin, on va pas dans le débat politique, on va écouter Fenn à la guitare.
Je sais pas, ou bien
on lance le CD, voilà, on va lancer le CD et on fera plus de guitare après.
Celle qui nous sauve. leur passion. Où sont passés les rêves et toutes ces intentions? On nous parle de la perfection d'un monde, alors qu'à chaque seconde la vie disparaît sous les écrans. On vit toutes ces barrières qui tentent la lumière.
Comme je disais en début d'entretien, c'est difficile de. Je proclame le pardon, il faut pardonner, mais je suis le premier à dire que la nature humaine a du mal. Et c'est peut-être par autoprotection, par orgueil, plein de défauts finalement qui fait que qu'on va avoir beaucoup de mal à dénouer le spaghetti, comme je disais tout à l'heure hors antenne, pour faire en sorte de faire avancer le public. Et je ne parle pas que du problème israélo-palestinien, il y en a des tonnes, et au Tibet, il y en a.
Ça manque pas.
Oui, voilà.
Ça a l'air d'éveiller moins de passion, hein, moins d'intérêt.
Non,
hein.
Oui, voilà. C'est pour plein de raisons.
Alors, Arafat disait, heureusement que c'est contre les Juifs qu'on se bat, sinon personne ne s'occuperait de nous. Et autour de vous, dans votre milieu, vos amis, est-ce qu'ils sont sensibles à cette question? Est-ce qu'ils, comme vous, ils disent dialogue?
Beaucoup de gens sont sensibles. Enfin, en tout cas, ceux de la communauté arabo-musulmane ou communauté juive dans mon entourage. Bien sûr, tout le monde est sensible.
Et ils parlent dialogue.
Bien sûr. Moi,
mais est-ce qu'on comprend que de part et d'autre, pour arriver à établir un dialogue fructueux, il faut que de part et d'autre, on renonce à ses rêves. Et pour les Israéliens, renoncer au grand Israël, ils l'ont en partie fait en quittant Gaza. Et pour les Palestiniens, renoncer au droit du retour dans les frontières d'Israël.
Voilà, je crois que il faut, comme on dit, mettre de l'eau dans son vin. On n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais je crois qu'il va vraiment falloir trouver une solution constructive qui va arranger tout le monde.
Avec une indemnisation des réfugiés, pour ceux évidemment qui ont été expulsés.
Par exemple, hein, je ne sais pas comment eux vont s'arranger, mais de toute façon, dans le tas, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord, qui seront contre. Moi, je suis artiste, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui adorent mon travail, il y a des gens qui sont pas indifférents, mais qui n'aiment pas. Ça va être la même chose, quoi. Donc, il va avoir
des gens. Ça a été difficile pour vous de faire cette carrière, de mener ce projet de musique?
Bah oui, c'est peut-être pas aussi difficile que de parler de ce problème-là, mais c'est bien sûr qu'un projet artistique est très 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 difficile, surtout en Belgique.
Et là, maintenant, vous allez sortir un prochain album. Oui, il y a des concerts prévus.
Oui, pas mal de concerts. Notamment la fête de la musique à Mons et à Tournai, sur la Grande Place de Mons, Grande Place de Tournai, sur la Grande Seine. Y a pas mal de projets, et puis oui, le second album qui arrive, et qui sera...
Qui s'appellera
Je sais pas encore. j'ai pas mal de morceaux.
Bon, alors on retient Sven, S-E-N, c'est le nom de notre musicien. Ouais. Il a un site qui est Sven Musique, musique en toutes lettres. www.fanmusique.be. C'était l'émission Dialogue et Partage animée par Sarah Brébard et produite par le collectif Dialogue et Partage. Merci Sven d'être venu. Merci Jackie. Merci Arnaud Zeitman. Et à la semaine prochaine.
Bien sûr, au revoir.